Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors nous sommes vraiment au complet aujourd'hui, Mélina de Courcy, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, bonjour à tous les trois. Nous sommes au complet pour l'événement de cet automne, l'exposition Rothko à la Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. C'est l'événement car depuis la rétrospective en 2001 à la Fondation Bayeler à Bâle, précisément à Rienne, près de Bâle, depuis cette rétrospective, nous n'avions pas vu autant de Rothko, et il y en a même davantage. Jamais vous ne reverrez une telle exposition. Il fallait le luxe, le calme et la volupté de LVMH pour un pareil événement. Comme aux deux rétrospectives, la salle que le collectionneur Ducan Phillips avait composée en 1960 à Washington, encouragée par Rothko lui-même. Alors avant de vous laisser la parole à tous les trois, je vous lis ce que Marc Rothko disait au cours d'une conférence de presse à New York en 1958. Je le cite, « Comme mes tableaux sont grands, colorés et sans cadre, et comme les murs des musées sont habituellement immenses et redoutables, le danger existe que les tableaux se relient aux murs à la manière de zones décoratives. Ce serait une déformation de leur signification. » Puisque les tableaux sont intimes et intenses et sont à l'opposé de ce qui est décoratif. Mes tableaux actuels renvoient à l'échelle des émotions humaines, du drame humain, autant que je suis capable de l'exprimer. Rappelons qu'il est né à Dvinks en 1903 et qu'il se donne à la mort le 25 février 1970 à New York. Alors, cette exposition, 4 étages et plus, on monte, et plus on monte, plus c'est fort. Faut-il revenir à plusieurs fois ou passer les premières salles figuratives Rothko à la Fondation Louis Vuitton, mode d'emploi, c'est à vous. Mélanie de Courcy.
Mélina
de Courcy.
Bonjour à tous.
Voilà.
Bonjour Christophe.
Bonjour Mélina.
C'est bien sûr une exposition extraordinaire. Vous venez de l'exprimer avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup pour votre dynamisme, Christophe. Alors moi, au risque de vous surprendre, j'ai découvert une nouvelle clé de lecture.
Mmh.
Et c'est ça qui m'a intéressée le plus dans cette exposition. Je suis sortie de là en me disant, au final, Rothko est l'artiste du paradoxe.
Oui.
C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire ce qu'il n'est pas.
Mmh.
Et c'est à travers ce qu'il n'est pas que j'ai mieux compris ou mieux approfondi ce qu'il est.
Intéressant comme démarche.
Bon, eh merci.
Oui.
Vous m'encouragez. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas? Il dit de lui-même, quand il fait son autoportrait en 1936, « Je peins un non-moi ».
Mmh.
Ensuite, il dit, mes peintures, je ne suis pas un coloriste. Vous connaissez Rothko pour ses grands rectangles de couleurs, de format monumental. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'objet.
Il n'y a pas de titre.
Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de message, il n'y a pas de cadre. Alors au final, qu'est-ce qui nous reste? Quelque chose qui paraît très simple, des grands rectangles de couleurs superposés. Certes. Mais que se cache-t-il derrière ces grands rectangles? Et c'est ça le paradoxe. C'est que plus on s'approche, pas plus de 46 cm, attention, c'est exactement la distance qu'il nous intime de préserver entre l'œuvre et nous. 46 cm pour des œuvres posées à même le sol, comme vues dans l'atelier. Et si nous sommes à ces 46 cm, nous voyons des couleurs profondes composées d'autres touches. Et petit à petit, tout ce qui nous entoure progressivement disparaît, car nous sommes absorbés par la couleur. Voilà mon expérience.
Guillaume Sébastien.
Alors oui, moi, le mot expérience que vient de prononcer Mélina est vraiment le mot, je trouve, qui caractérise cette exposition. Moi, j'ai été très frappé par on va parler du fond d'exposition de l'œuvre de Rothko, bien sûr, mais par la forme de cette exposition. C'est absolument incroyable. Elle se passe d'abord à la Fondation Louis Vuitton, dans cet immeuble, cette construction incroyable de Franck Guéry au bois de Boulogne, qui est énorme, qui est parfaitement adaptée à l'œuvre de Rothko, donc qui sont des très grands tableaux. L'exposition est présentée comme une rétrospective, donc elle est chronologique.
C'est ça qui est très
donc,
bien.
Donc, on va du début de l'œuvre de Rothko, et moi j'avais jamais vu ça,
c'est ben,
une découverte extraordinaire, des œuvres complètement figuratives, qui sont très belles ben, d'ailleurs.
Trop, j'aime beaucoup.
Jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières œuvres de Rothko, et on déambule dans ces gigantesques salles, d'étage en étage, avec ces tableaux énormes qui se succèdent, donc on a un choc visuel qui est redoutable, je trouve, avant de dire j'aime pas, qu'est-ce que c'est, etc. Moi, j'ai eu vraiment cette impression-là. En plus, La scénographie a été faite de telle façon qu'elle rejoint ce que Rodko voulait, c'est-à-dire que les œuvres sont plutôt présentées dans la pénombre. Mmh. Il faut vraiment être très attentif, prêter beaucoup d'attention pour voir lire les cartels, hein, qui sont vraiment dans le noir, on y peut. Donc il y a cette ambiance qui est vraiment très particulière et moi que j'ai trouvé formidable.
Stéphane Covio.
Alors, je vais rebondir sur le mot « expérience ». Et il est fondamental que les visiteurs de cette expo qui nous écoutent et qui vont bientôt avoir leur expérience aient une bonne expérience. Et je les inviterai à ne pas commencer par le début.
Voilà.
Il ne faut pas descendre au sous-sol pour commencer par voir la période figurative, puis la période mytho, surréaliste. Puis, quoique là, attention, ce qu'on appelle les multiformes, je trouve qu'il y a des expériences vraiment très fortes à vivre là. Je pense que pour les gens qui iraient pour la première fois voir des tableaux de Rodko, il faut commencer par soit le rez-de-chaussée, soit le premier étage, soit le deuxième étage, par ce qu'on appelle le Rodko classique. C'est-à-dire, ce sont ces toiles grandes dans lesquelles on voit un ou deux rectangles colorés. Et alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Parce qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et je vais vous dire, l'expérience est encore meilleure quand on va regarder un tableau qui est seul sur son mur.
Oui.
Parce que la meilleure des scénographies qui soit pour un tableau de Rodko, c'est d'être le seul sur son mur. Et il y en a plusieurs qui sont exposés comme ça. Donc allons-y, un tableau seul sur son mur. Qu'est-ce qu'on voit ? Le grand format rectangulaire, avec un pourtour coloré, peut-être rouge, pourquoi pas, celui auquel je pense est rouge. Et puis, à l'intérieur de ce rectangle, une forme rectangulaire en hauteur qui occupe, qui remplit l'espace du haut du tableau. Donc du coup, qui devient rectangulaire. Mais elle est moins rectangulaire que le cadre, parce que le cadre est bordé par des lignes droites du châssis. Cette forme rectangulaire qui est en hauteur, qui peut être celle à laquelle je pensais noire, eh bien, elle a des bords floutés. Et elle a été brossée très légèrement avec des coups de pinceau qui font disparaître la netteté des bordures. On a l'impression qu'elle flotte. On ne sait pas d'où elle vient. Elle est là et elle occupe l'espace. Elle est comme en suspension. Et en dessous d'elle, il y en a une autre. Et entre ces deux-là, il y a un petit interstice de couleur qui peut être celui du fond, qui peut être autre chose. On se rend compte que le noir du dessus, par exemple, est mat. Et que, en revanche, le rouge qui est autour est un rouge qui n'est pas de la peinture, qui est une teinture, qui laisse apparaître la toile. Mais ce n'est pas la même chose sur le rouge sur le noir qui est au-dessus, où il y a quelque chose, il y a un relief supplémentaire. Et puis, dans le rectangle rouge qui est en dessous, c'est encore autre chose. C'est une couleur plus lumineuse, c'est une couleur plus brillante qui vient vers l'avant de la scène. Alors que dans le noir, on s'enfonce. Il y a quelque chose qui nous rétracte, qui nous absorbe. Alors que de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes. Et en fin de compte, on se rend compte que cette surface est mouvante, cette surface est vivante. Et tout à l'heure, Mélina a évoqué des propos de Rodko sur son travail. Et Rodko disait que tout est là pour lui, dans le jeu qu'il y a entre ces surfaces colorées. Oui, il disait, moi je ne suis pas coloriste, dans le sens où il n'aime pas qu'on regarde ces tableaux simplement sous le regard de la séduction colorée ou l'art de mettre des couleurs ensemble. En fait, ce qui l'intéresse, c'est la vie interne de cette œuvre qui est en lien avec sa vie profonde et en lien avec ce que lui appelle la tragédie de l'humanité.
Alors c'est étonnant parce que vous parlez tous les trois de couleurs, mais aucun d'entre vous n'a mentionné le mot de lumière.
Je pense que la question de la lumière, elle est totalement inhérente à l'œuvre de Rodko, mais que lui-même la mentionne quand il approche les noirs de la chapelle de Houston.
Oui.
Parce qu'il refuse la couleur à ce moment-là pour choisir le noir, qui est un reflet de l'intériorité et qui nous renvoie à nous-mêmes dans le cadre de cette architecture pour laquelle il dit « Je n'ai pas fait une œuvre, j'ai créé un lieu ».
Tous les matins, Rodko demandait à ses assistants de délimiter les rectangles noirs en posant du ruban de masquage sur la toile, puis de les recouvrir d'abord de fusain, puis de peinture à l'huile, enfin d'une couche d'émulsion fraîche de peinture à l'huile et à l'œuf. Il s'intéressait de plus en plus au problème de réflectance lumineuse, mais au moment de la chapelle, comme s'il fit évoluer certaines des 14 toiles de pourpre vers le bordeaux, il avait pratiquement éliminé la couleur comme élément majeur de son travail. On rentre vraiment dans l'intimité de l'atelier.
Je voulais revenir sur ce que vient de dire Stéphane. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur le mode d'emploi de visite de l'exposition. Je pense qu'au contraire, que quand on ne connaît pas l'œuvre de Rothko, en fait, connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, Rothko a laissé assez peu d'écrits sur son œuvre, assez peu de clés. Il ne voulait pas d'ailleurs. Il voulait que n'importe qui puisse. Il détestait les critiques. Il se méfiait beaucoup des gens du monde de l'art. On connaît tous ce que c'est une œuvre de Rothko classique, ce tableau avec ses grandes bandes. Et moi, je crois au contraire que c'est très intéressant de commencer par cette salle incroyable de 17 tableaux figuratifs que Rothko a fait quand il avait 30 ans, qui sont d'une grande dextérité. Après, il y a une salle où il devient totalement surréaliste, influencé par une très grande exposition d'Ada qui a lieu au MoMA de New York, où là on voit que c'est un peintre extrêmement agile, qui sait dessiner, qui sait manier la couleur. Et puis tout de suite, c'est le choc, on tombe dans ces fameux Rothko classiques. Et moi, ce dont je me suis aperçu, j'ignorais ça, c'est une impression que j'ai eue, une sensation, c'est que ces premiers tableaux, on sent vraiment, et c'est pour ça que l'accrochage est remarquable, quand on bascule vers ces tableaux plus abstraits, j'ai eu l'impression que Rothko voulait recouvrir, il voulait effacer le sujet. On voit bien qu'il y a des tableaux, on a l'impression qu'il y a en dessous ces grands aplats de couleurs, quelque chose qu'on perçoit un petit peu encore. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé et beaucoup surpris.
Qu'on perçoit ou qu'on imagine?
Je ne sais pas, imagine peut-être.
Oui. Ben, ça fait aussi partie du miracle.
Qu'on imagine qu'on perçoit, parce qu'en fait, il y a des recouvrements,
oui.
Mais en réalité, ce n'est pas un sujet qui est recouvert.
Oui.
Mais, donc après, il y a les deux, il y a l'imaginaire, mais il y a des véritables effets de recouvrement.
Oui, Mélina.
Alors justement, je trouve que cette exposition pose la question du passage de la figuration à l'abstraction.
Oui, que l'on voit finalement, aussi chez Klee, que l'on voit aussi chez d'autres, chez Miro, que l'on voit chez d'autres peintres.
Oui, mais chez Rothko, il y a des causes réelles. Mm-hmm. Et c'est intéressant, justement, d'avoir cette dimension de premier temps avec des tableaux figuratifs, parce qu'on se dit tout à coup, pourquoi est-ce qu'il passe à l'abstraction? Parce qu'il dit, ma peinture n'est pas abstraite, il le dit quand même. Ma peinture n'est pas abstraite, elle est habitée et elle vit. Donc, je prends un exemple. Le tableau 1939 qui s'appelle Garçon debout. Un jeune garçon debout devant une fenêtre ouverte dans un immeuble de New York. On a déjà trois rectangles. Le rectangle du ciel, bleu-gris au fond. Le rectangle du mur d'en face, de l'immeuble d'en face, rose. Et le rectangle de la commode verte sur laquelle il s'appuie. Petit à petit, cette figure va disparaître. L'homme va disparaître. Et ce qui va rester, ce sont les rectangles. Pourquoi ça disparaît? Il y a un choc très puissant qui se passe dans la vie de Rothko avec 1939, 1940, le choc de l'effondrement de l'Europe sous l'invasion nazie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie personnelle? Il arrête de peindre. Rothko arrête de peindre. Ça fait 17 ans qu'il peint. Il arrête de peindre. En plus, sa femme le quitte. Et donc, le résultat, c'est qu'il arrête de peindre et qu'après ça, la figure humaine, il pense qu'elle est mutilée et que l'ayant étudiée, tous ceux qui l'ont étudiée et l'ont peinte l'ont mutilée et il dit « moi, je ne veux pas être celui qui mutile. Donc, je choisis une autre voie. » Et ça, c'est un passage intéressant. 1945, après la guerre, Hiroshima. Qu'est-ce que c'est Hiroshima? C'est la possibilité que l'humanité disparaisse. Et pour tous ceux de l'école de New York, Barnett Newman, Jackson Pollock, Gottlieb, Rothko, etc., pour tout cela, eh bien, il y a une réflexion collective à la sortie de la guerre. Et chacun, selon son chemin, prend une voie différente que celle de la figuration. Donc c'est très prégnant chez ces artistes-là. Ça donnera l'expressionnisme abstrait, mais c'est quand même vraiment très prégnant. Et donc à l'issue de ça, il y a un tableau de Matisse qui est acheté au MoMA qui s'appelle Atelier Rouge, qui entre au MoMA en 1954, où l'espace de la toile est saturé de rouge. Et en fait, c'est vraiment un point de départ pour Rothko. C'est-à-dire entrer dans cette couleur qui exprime quelque chose par son vide, du plein de la vie, mais qui ne peut plus être représenté parce qu'on risque de la mutiler, qu'elle risque de disparaître.
Alors c'est important ce que dit Mélina.
Stéphane Covio.
Il y a quelque chose aussi que dit Rothko à propos de son passage à l'abstraction, c'est qu'il cherche un moyen d'expression pour communiquer plus directement de sa propre intériorité à l'intériorité des spectateurs. Et il ne veut plus que ça passe par le discours, par le langage. Et d'une certaine manière, enlever la figure, c'est enlever une aptitude au discours.
C'est enlever le mot.
Et c'est enlever les mots. Et en revanche, au contraire, il veut quelque chose qui ait une puissance émotionnelle. Il y a un mot très important qu'il utilise beaucoup, dont la traduction en français est compliquée. C'est le mot poignancy. Il cherche à ce que la poignancy soit transmise. En français, poignant, mais il n'y a pas d'équivalent, ça serait la charge émotionnelle.
Et c'est lié à la tragédie. C'est lié à la tragédie.
Ah, donc ça part, lui, d'une intensité de vie, d'expérience de vie, et il veut transmettre ça par la peinture, et en fin de compte, c'est par les sensations qu'il va, avoir l'ambition de le transmettre. Pour lui, le chemin le plus direct pour passer d'une sensation à une autre, c'est en fait d'éliminer la figure aussi. Et d'ailleurs, c'est pas mal de peintres, par exemple le chemin de Kandinsky pour rejoindre l'intériorité d'un autre, 1912. Ça va être aussi d'abandonner la figure.
Donc abstraction 1912, voilà. Kandinsky.
Oui. Alors, Mélina. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne veut pas dire, en éliminant la figure, que Rothko supprime la sensualité, c'est-à-dire la perception sensuelle.
Mais oui.
Au contraire. Et ce qui est très frappant, c'est que à ce moment-là, à partir de 1955, donc il entre dans des compositions rectangulaires de rectangles superposés, 6 rectangles, 4 rectangles, 2 rectangles, et la proportion des rectangles installe la couleur dans sa matérialité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il retourne en Europe. Il n'était jamais retourné en Europe depuis son arrivée en 1913 à New York, enfin à Portland puis à New York. Il retourne en Europe et là, il va en Italie. Et en Italie, il s'approche du Trecento et du Quattrocento italien, qui sont des œuvres religieuses. Rothko est juif, encore un paradoxe. Et il voit Giotto et il voit Fra Angelico au couvent San Marco de Florence. Et il est frappé par ces masses colorées qui disent la sensualité de l'être.
Les ailes colorées de l'ange.
Du sacré.
Et oui.
Et alors donc là, ça, c'est un déclic.
On y arrive.
Deuxième déclic.
Oui.
Et c'est pour ça que c'est passionnant cette exposition, c'est parce qu'on entre dans tout ça.
Le côté sacré à l'intérieur de l'œuvre de Rothko, Guillaume Sébastien.
Alors oui, justement, avant d'y arriver, et là encore, je trouve que cette exposition est une expérience fantastique.
Oui.
Et donc, effectivement, la figure humaine a disparu. Moi, j'ai eu cette impression, parce que les salles de la Fondation Louis Vuitton sont énormes. Et dans une ou deux ou trois salles, il y a peut-être 20, 30 Rothko qui s'enchaînent.
Oui.
On peut avoir, et c'est normal, quand même l'impression d'une certaine répétition, et on peut avoir envie de passer assez rapidement ce que j'ai fait dans une salle où il m'a semblé que les tableaux se ressemblaient et je ne ressentais pas grand-chose devant. Vous voyez, j'avais pas de sensation, j'avais pas d'émotion devant ces
les
tableaux.
Les moyens formats, souvent.
Et je crois que c'est le cas dans les années 49, 50, 51. Mélina le disait tout à fait justement là. Rothko a senti un très grand vide dans sa vie et on le ressent dans ses toiles. On sent que la vie a quitté ses toiles. Et quand on chemine dans l'exposition, encore une fois, bravo pour ce parcours chronologique, eh bien, moi, j'ai trouvé que la spiritualité revenait, se renforçait, qu'on avait plus d'émotions quand on regardait les tableaux. Et ça, lorsque les tableaux deviennent plus sombres, où les formes, les motifs diffèrent aussi, plutôt que cette éternelle superposition d'aplats ou de lignes horizontales. Et plus on monte justement dans l'immeuble de la Fondation Vuitton, plus, moi j'ai trouvé, on a cette impression d'une présence, d'une spiritualité.
Alors moi je suis d'accord.
Stéphane.
Et la scénographie y est pour beaucoup. C'est-à-dire que quand on est au rez-de-chaussée, si mon souvenir est bon, en fait, on a beaucoup d'œuvres sur les murs, donc c'est pas du tout propice à la perception des œuvres de Rothko. Et c'est un danger, là, de ne pas savoir s'arrêter quelque part. En revanche, dès qu'on passe à l'étage au-dessus, on a soit l'installation du Seagram Building, avec une véritable... Là, pour le coup, il y a plusieurs tableaux, mais conçus pour, par Rothko, pour un espace bien précis qui est totalement reproduit dans l'exposition.
Et pour être ensemble.
Et pour être ensemble. Donc avec, et là, c'est une véritable installation, comme les nymphées de Monet à l'Orangerie, avec un véritable effet d'émergence chez le spectateur de sa propre intériorité. Enfin, c'est un effet chapelle, c'est l'effet dont on parlait tout à l'heure de la chapelle de Husson. Et dans ces étages où on est en hauteur, il y a là, à plusieurs reprises, des situations dans lesquelles on a une œuvre sur un mur. Et c'est vraiment, j'insiste beaucoup pour les spectateurs, c'est là qu'il faut se livrer. Il faut s'arrêter. Et si je proposais de ne pas commencer par le bas, c'est pas pour le manque d'intérêt du bas, le bas est très intéressant, mais si on prend le temps de faire le bas correctement, on n'a plus l'énergie contemplative ou la qualité de présence face à ces moments très très forts de sa peinture au sommet.
Et qui dégage, je trouve, une grande paix. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement paisible. Et c'est, on parle souvent de couleurs criardes, mais là, ce sont des couleurs apaisantes et qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, vous regardez ça, vous êtes pris complètement. Mais il y a une espèce de vide, de silence, et vous êtes happé par la peinture et par la couleur.
C'est ça.
Alors, Mélina, juste revenir sur un projet que Stéphane vient de mentionner. Le Seagram Building, c'est un building construit par Mies van der Rohe et dans lequel il y avait un projet de restaurant pour lequel il avait été choisi pour une commande. Il se trouve qu'il est reparti en Italie à ce moment-là. Et il est revenu avec cette impression de sensualité très forte, d'intériorité très forte et ce sens du sacré très fort qui transparaît dans ces grands rectangles colorés qui ne sont absolument pas des rectangles raides. Le bord des rectangles, c'est du sfumato, c'est comme Léonard, hein. Ça vibre, ça se chevauche. La superposition des couleurs qui est très fluide, la peinture et la matière sont très fluides. Donc tout ça, il y a une superposition, une espèce de vibration intérieure très étonnante, très envoûtante. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est complètement happé par cette peinture. Et il disait, je fais du grand format pour être intime et humain. Ça aussi, c'est un paradoxe.
C'est vrai.
Pour être intime et humain, on fait du petit. On ne fait pas du grand.
Oui. Hein et mais il y a des petits Rothko. Hein.
Oui, mais...
J'ai connu des tout petits formats de Rothko.
Et donc, pour aller jusqu'au bout... Oui, c'est ça.
Qui sont aussi envoûtants que les grands.
Oui, oui. Mais là, lui, il avait choisi le grand format, après d'ailleurs avoir rencontré le peintre Clifford Steele, qui lui était totalement américain et tout. Et donc, juste pour finir, il a finalement refusé d'honorer cette commande.
Pourquoi ?
Parce que son intériorité dans la peinture, cette intimité et cette humanité qu'il transposait sur sa toile n'étaient pas en rapport avec le lieu de luxe, d'agitation, de paraître de ce restaurant. Et il a donc refusé d'honorer cette commande.
Absolument.
Ce qui a fait un bruit retentissant.
Et il a refusé avec ces mots terribles, je ne suis pas décoratif.
C'est ça.
Parce que ça allait être décoratif. Stéphane Covio.
Oui, et puis alors, il n'y aurait pas eu de réception correcte de son travail.
Ah bah oui.
Il est fondamentalement concerné par l'accrochage de ses œuvres.
Très exigeant.
Partout où elles sont accrochées, il demande à ce que ce soit, à ce qu'il n'y ait pas de chaise, par exemple, chez Duncan Phillips à Washington, que ce soit un banc, donc pour qu'on puisse avoir une bonne relation aux œuvres. Et on parlait de l'abandon de la figure humaine. En revanche, il n'y a pas d'abandon de l'échelle humaine. Et ça, il insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que pour lui, l'échelle humaine compte. Et ces rectangles verticaux qui sont en face de nous, quand on regarde, il y a un rapport avec le corps humain. C'est plus grand que nous, oui, mais il y a quelque chose qui entre en relation avec un homme debout, vertical, face à ce panneau vertical. Et ces rectangles-là flottants appellent quelque chose qui est en présence flottante, pourquoi pas aussi chez nous. Et ça, c'est ce dialogue-là de l'intimité qui est très fort.
Et c'est là où la question de la lumière est très importante.
Eh oui.
Parce que les lumières tamisées permettent justement de tomber sur la peinture pour qu'on regarde en soi-même.
Guillaume.
C'est une exposition qui pose beaucoup de questions, donc effectivement, sur l'abstraction, sur la figuration, moi j'étais très frappé par les dernières œuvres de l'exposition, alors on va pas tout raconter, parce que comme la fin d'un film ou d'un livre, mais où Rothko est presque figuratif, finalement, à la fin, ces œuvres qui s'appellent Black and Grey, noir et grise, au milieu desquelles il y a des magnifiques sculptures de Giacometti.
Oui, l'homme qui marche, notamment.
On a vraiment l'impression...
Que c'est fait pour ça
de paysage, d'une profondeur que l'on retrouve à ce moment-là. en visitant l'exposition Rothko, j'ai bien sûr pensé à Nicolas de Staël, à l'exposition, l'autre grande exposition qui a lieu à Paris en ce moment.
Au ce musée d'art moderne de la ville
de Paris. Deux artistes qui sont de la même génération, qui viennent tous les deux de l'Europe de l'Est, qui sont entre l'abstraction et la figuration. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et nous sommes très chanceux à Paris d'avoir en même temps ces deux grands artistes montrés en grand.
Mais vous avez raison de les comparer. Cela dit, il y a une mystique chez Rothko qu'on n'a pas chez Nicolas de Staël. Oui. Mais il y a une sensualité chez Nicolas de Staël qui est différente de celle de Rothko. Vous avez 45 secondes pour conclure les uns les autres, qu'il faut y retourner, il faut y aller plusieurs fois.
Bien sûr. Oui, il faut prendre le temps de faire salle après salle si on a envie, mais bien sûr, c'est merveilleux.
Et ça permet... Alors, parce que je crois qu'on n'aura plus jamais, nous, de notre vivant, une exposition Rothko de cette ampleur.
Alors, sûrement pas. Il y a quand même une exposition de Rothko il y a peut-être 10 ou 15 ans au Musée d'Art Moderne de Paris, également organisée par Suzanne Paget, qui a organisé celle-ci. Mais celle-là, non, je pense que Rothko aurait été... Stéphane parlait de son exigence pour la présentation mais il aurait été très content de voir cette exposition à la Fondation Vuitton.
Merci Mélina de Courcy, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien. Je rappelle que l'exposition Rothko se tient jusqu'au 24 avril 2024. Je vous renvoie au catalogue de l'exposition, évidemment aux articles d'Harry Bellet dans Le Monde daté du 19 octobre et puis bien sûr à la biographie de Marc Rothko que signe Annie Cohen-Solal et qui reparaît en poche folio chez Gallimard. Merci aussi à Cédric Coba, Philippe Malpeuch, François Dudonné, Camille Meyer et Louis-Marie Picard pour la réussite technique de ce Culture Club. Je vous embrasse.